Bonjour, nous sommes le lundi 21 octobre, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Chaque semaine, La Relève vous propose de passer une demi-heure avec de jeunes talents. Aujourd'hui, on va parler rideaux rouges et scènes de ménage, mais au fait, qui a peur de Virginia Woolf ? Élodie Navarre et Emmanuel Noblet, bonjour. Vous êtes à l'affiche du théâtre du Petit Saint-Martin, dont il faut toujours surveiller la programmation. La pièce s'appelle Les Beaux. Et pour vous avoir en face de moi, je confirme qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise pour l'une et pour l'autre. Elle est de Léonore Confino. La mise en scène est signée Comme de Belsis. Voilà, j'ai tout dit. J'ai oublié l'éclairage, pardon. Je suis navré pour eux. Vous avez joué hier ?
On a joué.
Alors,
hier.
On va dire la vérité, on est un samedi matin. On enregistre. On n'est jamais là le lundi en direct. Et je voulais juste savoir si vous aviez joué en direct et si vous allez bien.
Oui, moi je vais très bien.
Ouais, on n'est pas frais, mais on va bien.
C'est éprouvant de jouer ce texte, on va en parler après, mais est-ce que...
C'est
à vous voir,
excitant.
On se dit que ça doit être éprouvant.
C'est éprouvant, excitant, c'est-à-dire qu'à la fois, on doit soutenir un rythme de... Comment dire, de croisière extrêmement dense, mais c'est jouissif.
Oui, parce que... Avant de commencer, on peut le dire, vous vous amusez à rejouer le texte entre vous.
Bah, on s'amuse pas, on fait une italienne.
D'accord. Ah ouais, ça, c'est notre cuisine à nous. Effectivement, le texte, on le dit très vite. Et pour maintenir ce rythme-là, il faut être sûr que la mémoire va très très bien. Donc on se refait tout le texte en début de semaine.
Puis il faut synchroniser la mémoire et la bouche. C'est-à-dire que parfois, non mais la tête va plus vite que la bouche ou le contraire.
Oui, un peu comme moi parfois. Et donc du coup, on est obligé de couper.
On racontera pas ce qui vient de se passer. Ça a été coupé, je crois.
D'accord. Mais émotionnellement, vous ressortez dans quel état ? Parce que moi je suis toujours fasciné par les acteurs, j'ai l'impression que c'est des ardoises magiques, vous savez le truc qu'on avait quand on était enfant.
Ouais.
Et je me demande toujours comment vous faites quand on
vous voit. C'est assez vrai parce qu'on nous a demandé de sourire au salut. Et là j'ai dit mais attends, on a besoin de quelques secondes.
Il faut
secondes.
Passer quand même une ou deux fois l'ardoise magique avant d'en sortir parce que ça demande beaucoup d'énergie et on sort un peu lessivé. D'ailleurs, moi j'adore d'ailleurs jouer la dernière partie parce que la pièce est en trois parties et comme il y a un moment assez physique pour moi de pétage de plomb et de destruction du décor, après je suis dans un état où j'ai plus rien à jouer. Quoi. Le texte sort comme ça, on est lessivé. J'ai des amis l'autre fois qui ont dit « vous avez le visage lavé par l'émotion à la troisième partie ». J'aimais bien l'expression et j'ai l'impression, enfin moi je ressens ça en tout cas.
Et donc, vous arrivez à revenir, sourire pour le salut, mais vous avez quand même besoin d'un petit temps.
Ouais, quelques secondes pour en sortir.
Alors, tout commence avec vous deux sur scène. Vous êtes très beau, vous êtes marié, donc on l'a déjà dit. Enfin, que vous étiez très beau, pas que vous étiez marié, ça c'est sur scène. Vous vous disputez très fort, notamment parce que madame a mangé le jambon de monsieur.
À midi, en mangeant mon wrap au thon chez Starbucks, j'ai lu sur mon set de table, à savoir ce qu'il aura pris de se lancer dans des sets de table pédagogiques chez Starbucks, j'ai lu qu'au Moyen-Âge, à la place des tours de la Défense, il y avait des champs de patates. Avec des charrues, des ânes, des paysans, des vieux couples unis jusqu'à la mort et aucun créneau pour déprimer. Tu vois, moi aussi je veux planter des trucs, les voir pousser, les cueillir, les bouffer et les chier dans de la sueur de bois que j'aurais râpé moi-même. Voilà ce que devrait être ma vie. Au lieu de ça, je rase mes poils, je porte un costume 100% polyester qui m'arrache les aisselles, sans parler des couilles. Je survends 4 profils de digital marketers que je déteste viscéralement, à des chefs que je déteste viscéralement, et quand je rentre, ma femme m'a volé ma viande. Chasseur de tête. Ça avait l'air viril sur le papier, mais au final, tu chasses sans fusil, sans forêt, sans cheval et sans proie. Si j'étais un vrai chasseur qui rapportait du vrai gibier, je serais un type tellement plus formidable.
J'y suis pour rien si t'as raté ta vie.
Alors, il a raté sa vie ?
Ouais. Ah bah oui, il en est persuadé, il va pas bien ce pauvre homme. Ouais, il est un peu en burn-out professionnel, relationnel et surtout... Enfin,
familial. Hein.
Familial, ils ont un problème avec leur fille. Ils ont une fille de 7 ans qui reste enfermée dans sa chambre à jouer au Barbie. Et on le dit d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans la première partie. On est les Barbie et Ken, ouais, de cette petite fille. Qui reproduit en merveilleux l'engueulade de ses parents à côté.
Vous jouez donc un couple qui se déchire pendant une heure. La pièce dure une heure, c'est très court mais très dense.
On se déchire pas pendant une heure. Non, on a une première partie où on est
assez
dans
douce.
Une sorte de couple idyllique que rêverait leur petite fille. Leur petite fille rêverait d'avoir des parents et ces parents qu'elle rêve sont dans
après.
La deuxième partie le contraire. Et d'ailleurs répète à peu près un texte similaire à l'inverse.
Quand vous recevez la pièce, comment vous avez réagi ? comment ça se passe? Vous avez reçu ce texte? Parce que là c'est une création. Ouais, j'espère ne pas me tromper. Ouais, mais...
Mais c'est très particulier à lire parce que le début, en fait, il y a deux personnages qui se parlent faussement, qui sont naïfs, qui ont l'air un peu... qui sont dans une sorte d'idylle amoureuse, mais plutôt...
Avec le vocabulaire d'une fille de 7 ans.
Avec en plus ce vocabulaire-là, donc on se demande dans quel univers on arrive. Et d'un coup, ça devient... mais un couple atroce qui se parle mal, qui se crie dessus.
Qui se dit des horreurs.
Qui se dit vraiment des horreurs. Non, mais cette méchanceté du couple, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, on comprend ce qu'ils ont à régler comme compte sur leur passé.
Clairement, quand on vous envoie la pièce, dans ces cas-là, on vous prévient ou vous avez juste le texte? Là, vraiment, techniquement, vous avez eu le texte ou on vous a dit, attention, la première partie, c'est pas vraiment...
Pas du tout, moi j'ai complètement découvert, peut-être toi.
Non. Moi j'ai reçu le texte, j'ai lu, et donc là, effectivement, là,
cette rupture, vous dites c'est quoi? Enfin, quand vous lisez le texte, vous dites qu'est-ce qui se passe?
Alors, il y a des didascalies.
Ah oui, quand même.
Et puis, c'est dit à la fin de la première partie, on entend les parents en off qui s'engueulent et qui disent oui, c'est Barbie vrai. Et Ken, c'est une obsession et on devrait lui retirer. Et Barbie et Ken, enfin lui et elle, disent tu entends, ils veulent nous séparer d'Alice, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va avec elle. Donc on comprend, mais surtout on se dit tout de suite, mais comment on va jouer ça, quoi?
Mais c'était justement la question que j'avais posée.
À un moment donné, lui, il détruit tout le décor.
Ouais, il détruit l'appartement. Ouais.
Comment on va faire pour passer dans une autre dimension sur scène?
Mais à lire, c'est ça qui était hyper excitant. Je l'ai lu d'une traite. Et la deuxième partie, enfin, tout à coup, on réagit en acteur instinctivement et on se dit ah ouais, d'accord, donc je vais jouer Ken la première partie. Deuxième partie, un mec odieux et on pense à Qui a peur de Virginia Woolf, comme vous disiez tout à l'heure, ce genre de scène mythique d'engueulade de couple. Et puis une troisième partie où, pour ma partition, le mec craque complètement. Et ça, c'est hyper excitant de se dire, je vais passer par tout ça en une heure, écrit comme ça, avec des punchlines comme ça, c'est hyper excitant. Et avec Élodie Navarre en plus.
Non, mais c'est surtout qu'on a fait un travail avec Homme de Belsis, le metteur en scène, extrêmement physique.
C'est-à-dire, alors il vous prépare comment?
C'est-à-dire que la première partie où on devait incarner ces poupées, on devait à la fois ressembler à un couple réaliste, comme on est parfois à nos débuts dans nos histoires d'amour, on est un peu niais, on se trouve beau, on se trouve incroyable, parfois, on n'arrête pas de ricaner. Et en fait, il disait, c'est plus intéressant que vous soyez dans une sorte de premier degré, de couple qui s'aime, qui se trouve beau, qui se regarde dans la glace, qui s'admire. Et vous êtes dans un narcissisme total.
Ouais, c'est ça. La première partie, moi, j'avais pas lu et je savais pas du tout. Ouais. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces narcisses ils sont plus vrais que nature, quoi.
Voilà.
Ils sont quasiment sur Instagram. Ils vivent leur histoire d'amour sur Instagram.
On a pensé à ça.
On a franchement pensé à ces gens qui sont tout le temps en train de
qui
se faire des selfies.
Qui se kiffent, qui s'érotisent, qui se caressent,
qui s'envoient des cœurs, qui se remercient d'être aussi gentils, incroyables.
Ils sont dans leur story en permanence.
Bah, c'est-à-dire que physiquement, ils disaient, voilà, il faut que vous ayez des corps de gens qui s'aiment, qui se regardent, qui vous avez vu, on prend des postures. Et tout d'un coup, on devient, en fait, c'est vrai, des Barbies. C'est-à-dire qu'on bombe le torse, on a des manières
sur la pointe des pieds.
Oui, je marche sur la pointe des pieds. On essayait de trouver des références, à la fois de couples comme ça, un peu bodybuildés, en tout cas d'aérobic, on peut dire. Et à la fois, ça donne aussi le petit côté poupée et raide de Barbie et Ken, qui ont une manière de se déplacer et puis de jouer un peu faux. Enfin, pas faux.
Sur le fil.
On est un peu sur le fil. Il y en a qui comprennent, enfin, dire qu'ils mettent un petit temps à rentrer quand même. Pour se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer là?
Mais oui, parce qu'en plus, il y a ce côté où il y a des passages où les deux personnages vont derrière les canapés et après coup, moi là aussi j'ai compris, c'est la petite fille qui les cache quoi finalement. Mmh. Mais on comprend pas au début pourquoi vous courez dans tous les sens par moment.
Parce que les parents pourraient rentrer.
Oui, parce qu'ils ont peur de... Enfin, la petite fille qui manipule ses poupées a peur, ses parents sont l'oppressent, ils s'engueulent à côté et c'est des moments où elle arrête de jouer. Et c'est ça qui la traumatise. Et on découvre dans la deuxième partie qui est...
Pas trop en dire. Mais déjà, je ne savais pas s'il fallait dire. Mais comme c'était écrit sur le site internet du théâtre, je me suis dit qu'on avait le droit.
C'était la question.
Vous connaissiez l'un et l'autre le travail de Léonore Confino au moment où vous acceptez le texte? Vous pouvez en parler? Comment vous le perceviez?
Moi, j'avais découvert Ring dans cette même salle. Et j'avais eu un coup de cœur incroyable pour ce texte. Et...
Elle parle d'aujourd'hui?
Des couples d'aujourd'hui.
C'est ça qui vous plaît?
Beaucoup, je trouve qu'elle est très juste dans ce qu'elle arrive à transmettre, de ce qu'elle ressent de la génération dans laquelle on se trouve.
Oui, et puis elle, c'est au scalpel, elle y va, elle y va, elle, et en plus elle le remue dans la plaie, le couteau.
Mais elle le remue tellement fort que ça en devient drôle.
Mais c'est ça,
et on peut se poser des questions et avoir une certaine tendresse pour les monstres qu'on est en train de devenir en couple. Ou cette phrase que tous les soirs j'arrive pas à savoir si elle est drôle ou pas drôle, c'est au 21e siècle.
Redis-le. Au 21e siècle, on est programmé.
On est programmé pour la séparation. Alors chacun s'y prépare. Tout est noté, calculé, mise de départ, frais de fonctionnement, bénéfices, pertes, en prévision du grand bilan comptable.
Les gens rient. C'est peut-être ça la réponse. Ça dépend des soirs.
Il y a des soirs, ils rient, d'autres,
Pour vous, le texte est drôle ?
Oui. Le texte est drôle. Ce qu'on vit est absolument tragique.
Mais c'est ça qui est fort.
Mais c'est drôle, oui. Enfin, c'est un rire de défense. C'est un rire jaune et un rire attendri. Et je pense que ça dépend de là où on est dans son couple et dans ce qu'on est en train de vivre.
Exactement.
Je pense qu'un couple fort, qui est encore dans une phase où tout
va
bien, va exploser de rire devant le marasme que peut devenir un couple. Mais un couple qui serait quand même en train de commencer à aller mal, il se dira en même temps qu'il y a bien pire et qu'il y a des monstrueux que...
Il y a de la marge.
Mais après, comme de Belsize, il nous a aussi poussé dans notre manière de jouer, parce qu'on pourrait jouer de manière beaucoup plus soft. Sauf que là, il trouvait ça intéressant d'aller dans la noirceur, la monstruosité du texte de Léonore. C'est-à-dire que lui, il a vraiment poussé dans notre jeu à aller dans des disputes extrêmes.
Oui, et c'est ce que nous disait l'autrice aussi, Léonore. Elle nous disait que, effectivement, si c'est un couple, où il y avait cet extrait tout à l'heure où le mec a un problème parce qu'il a pu son jambon, on s'en fout. C'est pas une dramaturgie hallucinante. C'est un mec. Ça devient une question de vie ou de mort. Et tout est révélateur de leur mal-être.
Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à la fois très quotidien et derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus fort.
Ouais.
Quand les gens rient pas, ça vous déstabilise ?
Ah, ça déstabilise pas forcément, mais ça ne porte pas. Mmh. Et on se dit, ah tiens, ok, ce soir ils n'ont pas envie de se marier, alors c'est peut-être nous, et c'est vrai. C'est peut-être eux aussi. Et il y a des soirs de la semaine, il y a une étude sociologique à faire, moi je trouve.
C'est pas pareil selon
les gens. Ouais, ça dépend des soirs.
Non, mais après on peut les mettre mal à l'aise, parce qu'on dit des choses qui sont dures à entendre. Enfin, je veux dire, il y a une vraie résonance, même si nous...
Vous dites des choses qu'on peut penser, mais que normalement on ne dit pas.
Exactement. Non, mais c'est là où Léonore, elle est forte. C'est qu'elle dit oui.
Et tout en étant crédible et réaliste. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'exploit dans la manière dont le texte est écrit. Comment c'est de travailler avec Côme de Belsize, parce qu'il est par ailleurs auteur de théâtre.
Ouais,
moi, j'avais vu certaines de ses pièces.
Mmh.
Je crois que c'est la première fois. Ouais, celle-là est géniale.
Ouais.
Qui était au théâtre de Belle-Île. Moi, je vous avoue qu'après avoir vu Soyez vous-même, je me suis dit, mais je veux être dirigée par...
C'était formidable. Les deux actrices, j'ai oublié leur nom, je suis navrée pour elles.
Alors, il y a Éléonore Jonquès.
Ouais.
Et
moi, je connaissais pas l'autre actrice.
Fanny
Otero. Oui, Fanny.
Elles étaient extraordinaires.
Ouais,
si un jour ce spectacle passe, il faut y courir.
Bien sûr.
Mais donc, ça, vous aviez vu, ça, vous étiez.
Ah là là, les actrices, j'en suis sortie, j'étais fascinée. Et je me disais, mais est-ce qu'ils. J'avais même peur qu'ils se rendent compte que je ne puisse pas aller si loin. C'est-à-dire que je sais que mon premier jour de répétition, j'avais vraiment une boule au ventre en me disant. J'espère pouvoir me libérer autant que ce qu'il aimerait, parce que c'est vraiment un metteur en scène qui nous pousse à aller très très loin, mais dans un lâcher prise total. Et le lâcher prise, on sait que c'est ce qu'il y a de plus difficile.
Mmh. Oui, et puis
vous avez vécu la même chose, vous, Emmanuel ?
Ah oui, c'est un formidable directeur d'acteurs, comme on le voit en voyant ses acteurs, ses actrices quand il les dirige. Et souvent, c'est lui qui écrit. Et là, en plus, ils se sont trouvés avec l'autrice, Léonore Confino, parce que comme aurait pu écrire un texte similaire et inversement. Enfin, ils se sont vraiment trouvés.
C'est eux deux qui sont venus vous chercher. Ils étaient à ce moment-là, ils étaient tous les deux ensemble pour venir vous chercher.
Et vraiment l'alliage, enfin ils se comprennent l'un l'autre, ils sont d'accord sur tout, et ça c'est hyper agréable aussi, on va dans la même direction, et on savait qu'ils nous pousseraient, comme ils poussent tous ces acteurs au plateau, à être affûtés, à être dirigés sur chaque réplique, et la mise en scène c'est selon moi pour 80% de la direction d'acteur.
Il a su se fondre dans l'univers de Léonore complètement.
Ouais.
Alors que d'habitude, il met en scène ses propres textes. Et là, c'est vrai que
on pourrait presque croire que c'est un de ses textes.
Il a la noirceur,
il y a quelque chose de noir aussi chez lui.
Ouais. C'est ça qui lui plaisait.
Est-ce que l'un et l'autre, alors je ne sais pas comment ça s'est passé, est-ce que c'était important pour vous de savoir qui serait votre partenaire ? Parce que visiblement, vous vivez des choses fortes.
Ah bah oui.
Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous n'auriez par exemple pas pu le jouer ? Mais je ne vous demande pas de nom. Est-ce que si on vous avait dit tu vas jouer avec elle, vous auriez dit non, j'y vais pas, vous, par exemple, Emmanuel Noblet.
C'est possible, oui.
En fait, moi, je pourrais le dire maintenant, parce que quand je vois le travail qu'on doit faire tous les deux, de la manière dont on doit être ensemble, Et physiquement, je veux dire, on est quand même en train de se frotter pendant une heure.
Oui, non, mais pas tout à fait une heure, mais on se frotte.
Honnête, ouais. On se dégire, on se met des claques, on se caresse, enfin, on fait tout, quoi.
Presque tout. Enfin, ouais, ouais.
Non, mais je veux dire, et je ne le savais pas avant, donc avant, j'aurais pu citer. Mais là, c'est vrai que maintenant que je vois ce qu'on doit faire tous les soirs, j'avoue que c'est quand même chouette de jouer avec toi.
C'est joli comme déclaration.
Le jour se lève et j'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est encore frais, par la fenêtre ouverte triomphe l'été. J'irai bien danser avec les feuilles du peuplier. La lune pâle traîne encore un peu. Regarde-la, elle ferme les yeux. Oh, mon amour, la valeur pour s'aimer. L'aurore tend fort, fais couler ta rosée. Le ciel est clair, l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte.
Fred Chichin, Catherine Ringer, le duo génial des Rita Mitsouko, encore une histoire de couple dans un de leurs derniers titres, c'était en 2007 et ça s'appelait Ding Dang Dong.
La relève sur Radio Campus Paris.
C'est toujours. Oh, bah, ce jingle est tellement court qu'il m'a surpris. Vous écoutez toujours La Relève, on est toujours avec Élodie Navarre et Emmanuel Noblet, actuellement à l'affiche de Les Baux au théâtre du Petit Saint-Martin. Et on va en profiter pour dire que si vous avez moins de 26 ans, il y a un tarif réduit qui est de 10 euros. Alors franchement. Ne dites pas que le théâtre est trop cher pour ne pas y aller. Ça, c'était ma minute aller au théâtre.
Et
voilà,
que le spectacle ne dure qu'une heure.
Ça dure une heure.
Vous pouvez retourner travailler après.
Préparez vos partiels ou vos examens. J'ai lu quelque part que le metteur en scène et l'auteur disaient qu'ils vous avaient choisi parce que vous étiez tout le contraire des gens qu'on voit sur scène, des gens très gentils. Alors, et vous me disiez que lui aussi était très gentil, donc c'est une histoire de gens heureux finalement.
C'est bisounours, on s'aime tous énormément et on raconte des horreurs. Mais bon, non, je pense qu'ils nous ont pas choisi que pour ça, sinon. Ça,
oui, j'espère aussi. Ça, non, mais ils disaient qu'ils avaient pas envie de faire un truc malsain, quoi, sur scène.
Ouais, et non, mais ils ont été. On a fait connaissance, hein, surtout sur des sujets pareils, et on parlait de de choses intimes, parce qu'on travaille sur l'intimité.
Mais chacun racontait ses histoires de couple pendant les répétitions en disant ouais. Bon, bah, tu vois, ces moments-là où tu pètes un plomb parce que tout d'un coup, tu trouves pas le café. Bon, bah, non, c'est surréaliste. C'est vrai. C'est que ouais. Ces pétages de plomb, on a pu se servir de ce qu'on vivait en couple chacun. Et on a tous des enfants petits qui peuvent aussi nous faire péter les plombs, c'est vrai. Voilà. Et on s'est nourri en fait de ce qu'on vivait tous les quatre.
Et on est loin d'être aussi malsain que les personnages qu'on joue, mais c'est un tel plaisir, un tel exutoire, défouloir de le faire que oui, c'est vrai. C'était drôle de le lire qu'il nous trouvait inversement.
Non, parce que c'est vrai que ça pourrait être une pièce très perverse si les gens se détestent.
Oui, c'est vrai.
Ça peut être épouvantable. On peut imaginer que ça peut très très mal se finir. Alors, tout à l'heure, on vous a entendu, vous, plutôt Emmanuel Noblet, qui est en homme moderne malheureux. J'ai choisi un deuxième extrait où on entend davantage Élodie Navarre. C'est vos deux minutes, là.
T'es passé chez les Toys and Kids ?
À 20h, tout était fermé.
Non, c'est pas vrai !
Est-ce que ça change ?
Et quand je lui ai montré le catalogue, elle a enfoncé son doigt sur Barbie enceinte pendant deux bonnes minutes en me fixant avec ses yeux pleins de larmes. Je te jure, j'en ai eu des frissons.
Est-ce qu'elle est seulement en mesure de comprendre que c'est son anniversaire ?
Peu importe, je vais marquer le coup.
Marquer le coup, t'as de ces expressions ?
Mais quoi, fêter l'événement ?
T'as eu des réponses ?
Oui. Personne ne vient.
Personne ?
Personne ! Et des excuses bidons. Des gastro, des départs en week-end. Ah si ! La mère d'Alice a eu au moins le courage de me dire que sa fille avait peur de la nôtre.
Salope.
Je lui ai répondu que c'était son devoir de mère d'apprendre à sa fille à tolérer les enfants différents, même si ça demande un petit effort.
Alors ?
Elle a répondu qu'à 7 ans, il était trop tôt pour faire dans l'anniversaire social.
Quelle pute !
Bah, c'est ce que j'ai dit. Mais voilà ce que je me tape pendant que toi, tu travailles.
L'un de nous doit continuer de travailler.
Tu travailles pas, tu fuis.
Arrête ! On va pas revenir là-dessus ! Si tu trouves un poste mieux payé que moi, je démissionne et je reste à la maison avec elle.
Mais je supporte plus de rester ici. J'étouffe, tu comprends ? Les statistiques me manquent, ma chef me manque, je suis pas autodidacte, voilà.
Je refuse de me retaper cette discussion.
On n'a pas résolu le problème.
C'est un problème économique, donc mathématique, donc résolu.
Je souffre, t'entends ?
Vu comme tu gueules, oui, j'entends.
Quand je pense qu'il faut s'humilier pour avoir droit à une discussion...
C'est bon, parlons.
T'es léché les couilles.
J'ai dit d'accord.
Je t'écoute. Qu'est-ce que t'as à dire ?
Rien, c'est toi qui veux parler.
Non, je veux que toi tu prennes l'initiative de parler. Pose-moi des questions.
Je n'ai plus de questions à te poser.
Trouve où je me suicide.
Ok, c'est reparti pour un tour. Tu veux déménager dans plus petit ?
Non, on n'est pas des rats.
En banlieue ?
À part de lui, franchement, non.
Et vivre à la campagne, nous former à la permaculture.
Bon, ça va, je t'en prie.
Vendre la voiture.
J'étouffe dans les transports.
Demander de l'aide à vos parents.
L'humiliation.
Tu veux qu'on renvoie Alice au centre ?
Non mais, tu te souviens d'Alice au centre, ses griffures ?
Plutôt crever.
On est d'accord !
Alors là, on vient de vous écouter, j'ai l'impression que c'est très dur pour vous, Élodie Navarre. Je suis pas psy, mais j'ai l'impression que vous souffrez à vous entendre.
Non, c'est particulier parce que, effectivement.
C'est que vous entendez quelque chose de vous n'avez pas l'habitude de voir.
Déjà, je ne reconnais pas ma voix. Le rythme, tout.
Mais le rythme a changé en plus.
Ouais, le rythme a changé.
C'est ça qui vous trouble.
Non, mais c'est en même temps, c'est intéressant parce que je vois les endroits où je suis approximative, où la colère. Je sais pas. Bon, après, bon, c'est des petits.
On a l'impression que vous êtes vraiment habités par ce texte tous les deux. Alors même si vous en êtes très loin, on a quand même l'impression qu'il vous suit quasiment tout le temps. Enfin, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui vous êtes à une émission de radio.
Non mais je veux dire...
où on en parle, mais vous en parlez
non mais
pas
si
dans
on y
rue.
Est tous les soirs quand même. Ouais. On y est tous les soirs. Alors moi déjà j'aime profondément ce texte et j'aime profondément le dire. Alors là apparemment je vois les erreurs que j'ai faites.
Personne d'autre hein, à part vous.
D'accord, mais bon voilà moi je le sais et puis Léonore va me le dire peut-être. Mais... On est obligé, en fait, de s'effacer, de s'extraire de ce qu'on est et de plonger dans le personnage pour pouvoir faire ce voyage d'une heure. Parce qu'il n'y a pas de répit.
Ce qu'on entend aussi, peut-être dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est aussi, j'ai l'air de rien, ce texte-là est une critique du mode de vie de cadre très beau. Oui. Il y a une critique qui est quand même sociale aussi dans ce texte. C'est quelque chose qui vous a intéressé à jouer ? Parce qu'en fait, lui, il est un cas dessus, puis ils ont peur...
La problématique, elle est réelle.
C'est très clair. Quoi.
Ils ne peuvent pas payer une babysitter, donc elle ne va pas travailler. Il faut choisir dans le couple. Parce que
ils ont besoin de s'occuper de cette petite fille à temps plein.
Qui ne parle pas et qui en fait, a un problème apparemment, mais on n'arrive pas à savoir lequel, parce qu'elle ne parle pas. Elle ne fait que vivre à travers ses Barbies.
Son problème, c'est ses parents, parce que c'est une éponge et qu'elle elle absorbe tout,
ouais,
tout
leur mal-être. C'est la théorie de l'enfant symptôme. Je ne sais plus de quelle école psychologique, mais c'est, on est en plein dedans. Quoi. L'enfant est le symptôme du couple.
Oui, après on ne diagnostique pas trop.
Non, elle, c'est pas
comme
le,
des caractères autistiques, mais ce n'est pas le sujet de la pièce. Mais bon.
Enfin, surtout, on comprend que c'est des parents toxiques, voilà. Et il y en a beaucoup, et on ne s'en rend pas forcément compte qu'on l'est.
Et après, il y a véritablement, effectivement, un aspect sociologique dans la pièce. Qui est oui, très intéressant.
Elle le dit, là, elle veut bien aller vivre en banlieue à Neuilly, éventuellement, nulle part ailleurs.
Non, mais c'est ça. Et c'est la réussite sociale, c'est les enjeux. La petite fille n'est invitée par personne pour son anniversaire. C'est juste un échec social total. Et chacun a ses référents. Chacun voudrait. Il y a un déséquilibre, effectivement, de l'homme qui travaille, de la femme qui reste à la maison.
La femme qui mange le jambon de l'homme.
Oui, et puis l'homme lui dit aussi cette chose terrible où si elle trouve un poste aussi bien payé que lui, il démissionne et il reste à la maison. Il le ferait d'ailleurs sûrement pas. Mais évidemment, que comme c'est impossible pour une femme de trouver un job aussi bien payé, la situation n'est pas prête de s'inverser. Donc oui, il y a tout ça en filigrane.
Vous êtes Emmanuel Noblet, vous avez joué et adapté sur scène, je suis désolé, je vois le temps qui passe, le Réparer les vivants, le roman de Marie-Lise de Kerangal, et même moi je le vois, qui vous a apporté de nombreux prix, un succès public. Cette page-là est complètement tournée.
Et j'ai dit que j'arrêtais parce que je l'ai joué 301 fois et qu'il faut...
Il y en avait une de trop.
Ouais, on m'a proposé une 302e, une 303e. J'ai du mal à arrêter de jouer ce spectacle que j'adore tellement, mais pour l'instant je fais une pause, peut-être je le reprendrai.
Il vous a apporté beaucoup ?
Ah ben bah oui, j'ai grandi beaucoup avec ce spectacle, énormément. J'ai une reconnaissance professionnelle que j'avais pas avant. Et puis c'est comme à chaque fois dans des parcours personnels, il y a un avant et un après un projet perso. Et moi j'ai lu ce texte, j'ai vu le spectacle en le lisant, j'ai réussi à le sortir. Alors que
ça vous fait jouer autrement aujourd'hui ?
Ouais, j'ai grandi, ouais, bien sûr. Et j'ai gagné.
Vous n'auriez pas pu jouer, par exemple, ce rôle-là sans... Vous l'auriez joué autrement, forcément.
Déjà, je ne sais pas si Léonore et Eco m'auraient appelé. Et j'aurais joué différemment, oui, c'est sûr. Moi, j'ai grandi comme acteur beaucoup avec ce spectacle.
Vous, Élodie Navarre, j'ai vu que vous rêviez de réaliser un film. Ça pourrait être Les Beaux.
Non, mais ça c'est un rêve film, de petite fille.
Il faut réaliser ça. Vous jouez avec vos Barbies et votre Ken et vous
mettez
des films
avec eux.
Non, mais
je dis ça, et à chaque fois que je m'y mets, j'aime tellement en fait d'être au service de l'univers des autres, parce que c'est un vrai plaisir, moi, en fait, de me fondre dans les mots de quelqu'un et dans la mise en scène de quelqu'un, surtout quand c'est des gens qui proposent des univers très forts. Maintenant, oui, j'ai toujours ce rêve de petite fille de réaliser, de mettre en scène, mais...
Vous avez une histoire, une idée,
quelque chose ? Oui, j'ai une histoire de viager qui m'est arrivée, que j'essaye de maturer, mais à chaque fois, j'abandonne. Mais un jour, je viendrai vous le présenter, mais je ne sais pas à quand, j'espère.
C'est un projet que vous avez en tâche, comme ça, voilà. Régulièrement, vous y remettez, oui. Et puis
à chaque
vous avez
fois
le temps,
que
vous êtes jeune,
je suis entre deux projets, je m'y remets, voilà.
Le spectacle va tourner, là vous êtes à Paris encore pour un certain temps. Je rappelle que pour les moins de 26 ans, c'est 10 euros et ça dure moins d'une heure. Donc vous pouvez travailler après, comme le disait fort justement tout à l'heure Emmanuel.
Oui, on va tourner en province en janvier 2021, février, mars.
Ouais,
voilà.
Pour l'instant c'est ça qui est prévu.
Et vous espérez le jouer très longtemps, ce texte ? C'est que, ou il est tellement fatigant qu'il y a un bout dit, vous n'arriverez pas à le faire 300 fois.
Il faut être en forme, hein. il faut être en forme chaque soir pour le jouer. Mais là, on sait qu'on va déjà jusqu'à la fin de l'année, qu'on aura plaisir à le reprendre après. Il y a une tournée qui se met en place et on est très heureux de cette perspective de le jouer longtemps.
On redit que c'est au Théâtre du Petit Saint-Martin. Je redis qu'il faut regarder toute la programmation du Théâtre du Petit Saint-Martin parce qu'elle est là, il y a vraiment beaucoup de choses sur le couple, notamment cette année. Et c'est vraiment formidable. Je répète cette phrase, au XXIe siècle, on est programmé pour la séparation. Nous, on va se séparer. Voilà. Ah oui, là, ça va être l'heure déjà, malheureusement. Moi, j'ai passé une délicieuse demi-heure avec vous.
Oui,
j'avais passé une heure dans la salle et maintenant une demi-heure dans le studio qui était merveilleuse. Merci à vous deux.
Merci.
Vous venez d'écouter La Relève. C'était déjà le quatrième épisode de la saison 4. L'émission était réalisée par Antonin, présentée et préparée par Christophe. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour parler musique classique avec Edgar Moreau et Romy Estève. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site de Radio Campus Paris. Émission La Relève, à très bientôt, bonne semaine et c'est 10 euros.